ça change de l'économie habituelle.
Il y a une autre manière de voir les choses.
La richesse humaine.
Une recherche d'harmonie dans l'économie un peu.
Replacer les êtres humains au centre des échanges directs.
Je vois bien l'idée, mais j'ai du mal à mettre des mots là-dessus.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire.
Les rendez-vous de l'ESS.
Les rendez-vous de l'ESS.
Les rendez-vous de l'ESS.
Vous écoutez Timbre FM sur le 106.6. C'est l'heure du feuilleton de l'économie locale.
Qu'est-ce que l'économie locale ?
L'économie locale, ça représente l'énergie qu'on peut trouver sur un territoire.
Qu'est-ce que tu entends par énergie ?
Des sujets qui concernent, par exemple, pour le pays de Plouermel, la ruralité dans son sens large, puisque dans un milieu rural, et plus concrètement, sur l'accès au foncier pour les paysans, ça va être la valorisation du bois au niveau local, ça va être les questions d'habitat participatif et du vieillissement.
Et toi, tu fais quoi dans l'économie locale ?
Je travaille pour la dynamique essentielle Plouermel, qui s'est lancée en 2013, et j'essaye justement de mettre en valeur cette petite économie locale qui s'active tous les jours pour son territoire.
Les soirées d'échange sur des sujets citoyens, c'est au champ commun.
Le fait que vous ayez mutualisé Plouermel, parce qu'en fait, Mathieu, tu parles du service à la population, et moi, ce que je questionne, justement, est-ce que du coup, il y a moins de services à la population du fait que vous mutualisez Est-ce que vous avez pu identifier...
Il y en a beaucoup plus, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on propose 36 jours de consultation contre 22. Donc ça veut dire qu'avant... on ne pouvait pas voir tous ces gens qu'on voit maintenant.
D'accord, mais est-ce que vous avez pu identifier une population en fait rurale que vous ne voyez plus du coup
maintenant ? Non, ça, non seulement on continue à les voir, mais on voit aussi toutes les populations des communes où il n'y a plus de médecins. Parce que je peux vous dire que même s'il y a un médecin qui est arrivé à Ruffiac, il n'est pas arrivé tout de suite. Et à Plouermel, on a récupéré un certain nombre de patients de Ruffiac, un certain nombre de patients du Roc-Saint-André, un certain nombre de patients de Guégon, etc., etc. Donc là, en ce moment, c'est Campénac. Voilà, c'est Campénac qui
débarque. Donc il n'y a pas de problème de transport, en fait.
Bon, attendez, problème de transport dans le canton de Plouermel, je suis désolé. Allez dans les Cévennes, on en reparlera. Hein. Okay. Allez dans d'autres régions de France, c'est un petit peu plus compliqué de circuler que chez nous. Bon, les enfants vont tous au collège à Plouermel, ils vont tous au lycée à Plouermel ou à Guerre. Bon, il y a quand même faire Saint-Malo de Bégnon, Plouermel ou Saint-Malo de Bégnon, Guerre, ça se fait quoi. C'est pas non plus Par contre, développer un peu plus les services à la personne, les portages de repas, les aides ménagères, etc. Mais ça, bien sûr, il faut aller là-dedans. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est tout à fait faisable et c'est tout à fait souhaitable. Mais c'est pas de notre responsabilité de professionnel de santé, qu'on soit infirmier ou ostéopathe ou autre.
Moi, je voulais juste savoir s'il y avait autant d'étudiants qui se destinaient à la médecine générale aujourd'hui qu'avant, en pourcentage, en ratio. Mmh. Mmh. Et une autre question qui n'a pas grand-chose à voir, mais pourquoi le choix de la maison de santé dans une zone et pas dans le centre-ville ? J'imagine qu'il y a des raisons très techniques.
Ah ben, purement, simplement pratique, c'est qu'il n'y a pas de terrain dans le centre-ville. Nous, on était prêts à aller ailleurs. Au début, on pensait même aller plus côté Loya. Sur la sortie côté Loya, puisqu'on était deux à venir de Loya, on s'est dit on va faire entre le rond-point de la Touche et puis dans la rue du Val. Il n'y a pas de terrain à vendre. Donc le seul terrain que nous a proposé la commune, qui était assez grand pour construire, c'était celui-là. Voilà. Ce qui se construit un petit peu plus bas, à l'époque, ce n'était pas encore viabilisé, ce n'était pas encore faisable. On nous aurait donné un bâtiment place de la mairie, on aurait pris, hein. Mais c'était pas dans le... C'est comme à Loya, on était allé construire dans un lotissement. Bon. Alors, le nombre d'étudiants en médecine, il augmente. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Ils n'ont jamais été aussi mal répartis non plus. Ça, on en a parlé. En 2002, on formait 3500 étudiants en médecine par an. Aujourd'hui, on est à 8000. Non, tout compris. Toutes spécialités comprises. Moi, quand je me suis inscrit à la fac de médecine, ils prenaient à l'époque 120 étudiants au concours de première année. L'année suivante, ils en prenaient plus que 115. Et puis, c'est descendu comme ça à Rennes jusqu'à 80. Et ensuite, ça remonte.
C'était avant.
Bon. Alors, aujourd'hui, on est à 8000 étudiants en médecine qui ont passé le concours des examens classants nationaux, là, récemment, dans lequel ils vont choisir leur spécialité. Et parmi tout cela, parmi ces 8000, il y a 45% des postes qui sont en médecine générale. Le ministère de la Santé nous a demandé, à nous, universitaires, d'augmenter le pourcentage, de prendre plus d'étudiants en médecine générale. Et nous, on a refusé. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les amphis, on n'a pas les salles de cours, on n'a pas les enseignants. Et on n'a pas les terrains de stage. Mais comment, c'est bien gentil de me dire... professeur Ménère, cette année, au lieu de prendre 105 internes, on vous en met 125. Mais oui, et je les forme comment, les 20 qui restent là ? Je dois leur trouver des terrains de stage ambulatoires, donc dans les villes, dans les campagnes, chez des médecins libéraux qui acceptent de les accueillir. Ces médecins libéraux, il va falloir les former. Et puis, il faut aussi qu'ils aient des stages dans des structures hospitalières. Et les hôpitaux, ils sont pleins comme des œufs déjà, au niveau de l'accueil des étudiants. Par exemple, les étudiants, les externes, ce qu'on appelle les externes, c'est les étudiants qui sont en 4e, 5e, 6e année. Aujourd'hui, à Rennes, ils sont 225 dans chaque promotion. Quand nous, on était 115. Donc ça veut dire que les services, il y a un peu plus de services aujourd'hui au CHU de Rennes qu'il y en avait il y a 25 ans. Ça veut dire que quand moi, je pouvais m'occuper de 3 ou 4 patients, aujourd'hui, ils en ont un ou deux, puisqu'ils sont deux fois plus nombreux. Et donc, on n'apprend pas de la même façon. Alors, on peut pas démultiplier si on n'a pas les moyens pour faire ça. Et aujourd'hui, mais c'est pas que dans la médecine, c'est pareil dans l'enseignement, c'est pareil dans tous les domaines. On nous demandera toujours de faire plus avec moins de moyens. Bon, mais nous, on a dit non. Voilà. On a dit non, et toutes les facs sont dans cette situation. Nous, on a besoin de nouveaux locaux. Nous, on est 15 enseignants aujourd'hui au département de médecine générale. Alors, on n'est pas à temps plein. Hein. Moi, on passe entre un jour et demi et deux jours par semaine à la fac. On a 4 bureaux pour 15 enseignants. C'est pour vous donner un petit peu l'état d'élaborement de la fac. Alors, on a énormément de chance d'avoir un doyen très dynamique et qui porte vraiment la médecine générale et qui est en train d'opérer des réorganisations dans toute la faculté. On va changer de secteur pour avoir un service qui est 3 fois plus gros. Donc là, on va pouvoir être, on va dire, aux normes. Mais moi, j'aimerais bien former plus d'internes en médecine générale. Hein. Mais il faut me trouver des maîtres de stage et puis il faut me trouver des salles de cours. Quoi.
Sur la formation, j'ai une remarque. En fait, dans les témoignages, on se rend compte que même si on a un bon équipement, etc., quoi, en fait, qui peut même être pris en charge par la commune, c'est pas forcément pour ça qu'il va fonctionner. C'est pas forcément pour ça qu'il va y avoir des médecins, il va y avoir une bonne équipe, etc., quoi, en fait. Bon. Donc, je pense que c'est une compétence que de savoir travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui pourrait s'apprendre aussi comme ça, en fait.
Tout à fait.
Ce sont des études, et les études universitaires, elles sont souvent de cet ordre-là, où on individualise l'enseignement et on amène les gens à se constituer eux-mêmes, mais pas forcément par rapport à un groupe. Ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, etc. Quoi, alors, en fait.
Chez nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au cours des études de médecine, ils travaillent de plus en plus en groupe. Il n'y a quasiment pas de travail individuel maintenant. Là, par exemple, les internes qui sont en stage à Pleurmel, il y en a qui sont en stage chez nous, il y en a qui sont en stage à la Chapelle Carreau, il y en a qui sont en stage un petit peu plus loin, il y en a qui sont en stage à l'hôpital. Eh bien, ils se retrouvent une fois par mois avec un maître de stage qui les chapeaute pour travailler sur des problématiques qu'ils ont pu rencontrer. Et c'est un travail qui est fait de façon collective.
Oui, mais est-ce que l'idée que j'avais derrière la tête, c'est que avoir un apprentissage commun par rapport à des techniques, par rapport à un savoir, en fait, l'art médical, au sens ancien du terme, mais aussi l'apprentissage de comment on vit le quotidien ensemble dans une aventure qui n'est pas simplement une aventure technique, comme ça, en fait, on se rencontre dans le couloir et ce n'est pas simplement pour parler d'un cas pratique, etc. Quoi, en fait, c'est aussi pour savoir vivre ensemble. Ça, c'est des choses qui ont peut-être besoin de se multiplier. Quoi, en fait.
Oui, je ne pense pas que ce soit un vrai problème aujourd'hui, vraiment, okay. Cette dynamique-là. Par contre, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça m'interpelle. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'il y a des moyens mis à disposition qu'il y aura du monde. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de travailler ensemble ? C'est qu'ils s'apprécient. C'est tout simplement qu'ils s'apprécient. Il y a des gens qu'on aime bien, il y a des gens qu'on aime moins bien. Il y a des gens avec qui on se voit bien travailler, il y a des gens avec qui on ne se voit pas travailler. Et dans tous les métiers. Tout le monde a eu un jour un collègue en se disant « Mais bon sang, si je pouvais m'en débarrasser, ça serait bien. » Et au contraire, tout le monde a aussi eu des collègues avec qui il était vraiment très à l'aise. Donc, imposer... c'est pas simple d'imposer un lieu commun à des gens qui n'ont pas envie de travailler ensemble. L'idéal, c'est quand les gens ont envie de travailler ensemble et qu'ils ont des moyens pour le faire.
Je pense qu'il y a des mauvais esprits là qui sont en train de penser que dans le corps médical, on a plus de moyens de se séparer de certains collègues que dans d'autres, dans d'autres métiers.
Alors dans la fonction publique, ça se fera par mutation.
Oui, aussi. Mais c'est, généralement, à ce moment-là, c'est des promotions. Quoi. Voilà.
Donc c'est vrai que pour qu'une commune arrive à développer son système de santé, ben, il y a besoin de plusieurs acteurs en même temps. Il y a besoin de professionnels qui ont envie de travailler ensemble et d'une commune qui les soutient d'une manière ou d'une autre. Nous, la seule chose qu'on a demandé à la commune de Pleurmel, c'est de financer l'agrandissement du parking. C'est tout. Ça a été deux coups de pelle mécanique, deux brouettes de bitume, et puis voilà, on a rajouté 6 places à ce qui était déjà prévu auparavant. Donc c'est quelque chose ça nous a aidé, ce coup de main de la commune. C'est le seul qu'on a demandé. Mais je vous dis, il y a des communes où, à Questembert, par exemple, où c'est un promoteur privé qui a construit la maison de santé et qui la propose soit à la location, soit à la vente, selon l'âge des professionnels. Un professionnel qui a 30 ans ou 40 ans ou 45 ans, il est prêt à investir dans son outil de travail. Quelqu'un qui a 55 ans, 60 ans, 63 ans, il ne va pas investir de la même façon dans son outil de travail, ce qui est un peu logique. Donc, il faut pouvoir trouver des formules qui s'adaptent à tout ça. Je trouve que ce qu'ils ont fait à Questembert, c'est très intelligent. Ça permet à chacun de s'y retrouver.
En fait, on parle de Compignac qui va être confronté effectivement à un manque de médecins. Mais je crois que M. Guillot est là, de Haugan. Et moi, j'aimerais avoir en fait, son avis en tant que médecin de campagne. Parce que d'ici 2-3 ans, je crois que vous allez partir. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à tous ces propos ?
Je vais répondre donc à la question de Madame de Campagnac là-bas. Bon, moi, quand je me suis installé, si vous voulez, comme Éric Ménard, on a passé 8 ans sur les bancs de la fac, etc., à l'hôpital, mais on s'est installé, mais c'est pour gagner notre vie, si vous voulez. Donc, on a occupé ici toutes les petites communes de 1314 habitants parce que c'était vivable. Donc, Campagnac a été pris. Moi, je suis venu à Augan, à la Chapelle Carreau, quelqu'un à Taupon, etc. Maintenant, les jeunes médecins préfèrent exercer en groupe, d'une part, et rester proche des grandes villes, hein, surtout pour les commodités d'école, de commerce, de loisirs, et leur vie de famille. Alors, je vois mal, c'est vrai, des jeunes médecins s'installer en pleine campagne, comme ça, dans des petits bourgs.
Ou alors, voilà.
Une seconde, pour revenir sur la dame de Carentoire, là, tout à l'heure, elle parlait de la maison médicale que j'ai remplacée en 84. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a plus qu'un seul médecin dans cette maison médicale, et peut-être encore un kiné, peut-être, ou un dentiste. Oui. Mais bon, si la commune rachète ce bâtiment, de toute manière, dès lors qu'une profession libérale va venir là, que ce soit un dentiste, un kiné, un médecin, une infirmière, elle paiera un loyer de toute manière à la commune. Donc je ne vois pas pourquoi les gens grognent.
Pardon. Le médecin en question a démontré ça, a dit de toute façon, ce sera payé en 4 ans et puis après c'est un revenu pour la mairie. Sauf que quand ça nous a été présenté en conseil municipal, toute cette information-là a été occultée. Donc moi, effectivement, je connais le médecin, je suis allée lui parler après, j'ai dit est-ce que je pourrais avoir plus d'infos ? Et il m'a dit, ils vous ont pas dit ça ? Non. Donc voilà, après, quand je dis c'est des histoires de pouvoir, c'est vraiment ça, c'est des histoires de pouvoir et de personnes. Parce que c'est clair que là, ça serait un avantage, puis le loyer qui est fait, je crois qu'actuellement, même pour les dentistes et pour le kiné, ça doit être 500-600 euros par mois, donc c'est pas non plus...
Non, c'est pas beaucoup,
voilà,
c'est pas beaucoup, c'est
mais
moins
ça serait un vrai service, là pour le bien coup, sûr. Ça serait un service... de la mairie, et puis ça se justifie. Pour moi, c'est évident.
Et nous, notre maison de santé, on est tous très jeunes. Moi, j'ai 50 ans, le plus âgé a 53 ans. Donc ça veut dire que quand on est rentré, on était vraiment beaucoup. On avait 3 ans de moins. Donc 50 ans, la moyenne d'âge aujourd'hui, elle est de 52 ans, je crois, à peu près, la moyenne d'âge des médecins. Mais... nous, on avait tous des capacités encore de remboursement pendant plusieurs années. La retraite, pour nous, c'est 67 ans. Donc moi, j'ai emprunté sur 20 ans. Voilà. Et la maison de santé à Pleurmel, elle a coûté 1 350 000 euros. Et bien, pour la construire, il a fallu emprunter de l'argent et on sait qu'on va la rembourser pendant toutes ces années-là. On a investi, nous, dans notre outil de travail parce que nous, on s'est dit, nous, on est dans le système libéral, c'est notre outil de travail, on se paye notre outil de travail. Point. Mais je comprends aussi qu'un médecin qui soit à 4 ans de la retraite, il ne dise pas « je vais investir, je vais emprunter 200 000 ou 300 000 euros pour travailler 4 ans dans une commune ». Non. Et là, c'est vraiment la responsabilité des collectivités locales de faire quelque chose, à mon sens. Et le mixte, c'est l'idéal, comme ils ont fait à Questembert, où les jeunes ont pu investir et les plus âgés restent locataires. Voilà. En attendant que ça change.
When you say you were through with him, you. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Rémi, par rapport à la question des commodités. C'est drôle, en fait, ce changement de culture, parce que quand tu es venu t'installer ici, ben voilà, vous êtes, comme tu dis ça de manière très naturelle, bon, c'est réparti, en fait, les communes. C'est ça, ouais, mais pour vivre. Et puis, je trouve que c'est intéressant, cette idée aussi, de venir, on vient bosser, quoi. On vient bosser. C'est ça, vivre de son travail. Et puis à l'époque, avoir une commune de 1500 habitants, bah on pouvait vivre de son travail. Moi, je trouve qu'il y a un espèce de paradoxe actuellement, c'est qu'on a une population vieillissante qui est quand même de plus en plus importante, qui consomme, je sais pas combien c'est le pourcentage des fonds de la sécurité sociale, mais qui consomme de la santé. Je veux dire, il y a de plus en plus de personnes vieillissantes dans les communes rurales qui sont les premiers consommateurs de santé. Il y a en cas ça. Et puis en même temps, alors, peut-être que justement, moi je vis dans une, j'ai la chance de vivre dans une commune à Augan. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de se dire, toi tu es encore là, tu n'es pas parti sur Pleuharmel. Demain, il va falloir que tu cèdes pour partir à la retraite, tu vas céder ton cabinet. Est-ce qu'il y a un espoir pour nous à Augan de se dire, on va avoir encore un cabinet médical après Rémi ?
Il peut y en avoir. Il peut y en avoir, parce mais que... pas un médecin sous-sol. Ça, j'y crois pas trop. C'est comme à Campagnac. Par contre, deux ou trois médecins qui ont envie de travailler ensemble, pas sur des amplitudes horaires identiques, parce que ça, il faut arrêter de rêver. Hein. Le médecin qui se lève à 7h30 et qui part chez lui à 7h30 et qui rentre à 21h30, vous n'en trouverez plus. Hein. Ça, arrêtez de rêver. Ou alors faites-le vous-même dans votre propre métier. Mais ne demandez pas aux gens de faire ce qui va à l'inverse de la société.
À côté de ça, nous, on est une commune. Alors moi, je ne suis pas... pour l'instant, j'ai la chance d'avoir l'âge de ne pas forcément consommer beaucoup pour utiliser des termes qui ne sont pas forcément très, très louables, mais de consommer de la santé. Donc, je ne vais pas régulièrement chez le médecin. Par contre, je suis content qu'il soit là quand j'en ai besoin et que je ne sois pas obligé de me taper la route pour le faire. Dans tous les cas, l'écho que j'ai aujourd'hui, moi, à Augan, sur le fait d'avoir encore un médecin à Augan, ça fait partie des fiertés de la commune. Ça fait partie
du bilan du maire.
Et du bilan du maire. Mais ça fait partie aussi du bilan des habitants. Les habitants vont voir leur médecin. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment d'activité.
C'était intéressant, cette discussion. Parce que nous, quand Aloya, la commune, a commencé à nous taper dessus parce qu'on voulait partir, on a regardé le conseil municipal. Il y avait la moitié des conseils municipaux qui étaient soignés à Pleuharmel. Donc, on n'a pas eu trop de scrupules. Voilà. Non mais c'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Donc, il y a des communes qui sont porteuses, il y a des communes qui ne le sont pas. Il y a des endroits comme, je reprends l'exemple de Campénac, puisque c'est du concret, c'est en ce moment qui se démène comme il faut pour que ça marche. C'est le minimum. Je veux dire, ça, c'est la condition sine qua non. Mais après, ça ne suffit pas non plus, puisque là, c'est pas encore enclenché. L'idée sur Campénac, c'est qu'il y ait deux ou trois copains qui aient envie de travailler ensemble et qu'ils se répartissent le travail sur une semaine avec, en travaillant à deux par jour, pas forcément tous les jours, puisqu'il y a beaucoup de modes d'exercice à temps partiel. Nous, je vous ai dit, on a deux consoeurs qui ont 31, 32 ans à peu près, qui font une qui fait trois jours, l'autre qui fait deux jours. Voilà. Elles ont des conjoints, elles ont des enfants et elles font la route. Bon. Et ce mode d'exercice leur convient. Bon, ben c'est ça qu'il faut trouver pour. Et donc deux personnes qui font un travail comme ça, plus un troisième qui est là tout le temps, il y a une dynamique. Et nous, à Pleuharmel, on est prêt à accueillir en pôle de santé ces jeunes-là et travailler avec eux, et les rencontrer, et qu'on ait des rencontres aussi régulières d'échanges professionnels, mais pas que, des échanges cordiaux aussi. Et ça serait pareil sur Augan. Enfin, ça, c'est envisageable. Pour moi, c'est pas du tout fermé. C'est possible. Mais ça ne se fait pas comme ça, quoi. C'est un travail qu'il faut démarrer assez longtemps à l'avance pour créer une dynamique.
J'aimerais faire remarquer par rapport à ce que tu disais, Rémi, qu'en fait, on a aussi la chance de vivre dans une commune où il y a des initiatives qui font que il y a des gens, et notamment des jeunes, qui viennent s'installer. En fait, bon. Et donc, je pense que la fatalité de cette image des personnes qui veulent absolument être en ville, et on pourrait dire par exemple que ça correspond simplement à certaines catégories socioprofessionnelles, j'ai l'impression que c'est pas aussi unanime que ça, tu vois, qu'en fait, bon, et que à partir du moment où on se trouve dans des territoires où il y a une dynamique, et pas simplement une dynamique médicale, mais des actions, une dynamique culturelle, une dynamique commerciale, etc., qu'en fait, portée par des citoyens notamment, et qui relèvent d'ailleurs de l'économie sociale et solidaire, comme ça, en fait, bon, on se retrouve avec un contexte qui est porteur par rapport à des projets de cet ordre-là, quoi, en fait. Donc, à mon avis, il est important de considérer ces thématiques de manière globale, mais pas isolée, parce qu'elles vivent ensemble, en fait. Comme les êtres humains vivent ensemble, évidemment.
À Kili, vous connaissez probablement l'association Kilimandjaro, qui fonctionne un petit peu comme vous, j'ai l'impression. On a un des piliers de cette association qui est orthophoniste chez nous et qui mobilise beaucoup les jeunes qui viennent de Rennes à l'activité de Kili. Et c'est pas rare d'avoir des jeunes qui vont aussi passer le samedi soir à Kili, voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, vous avez tout à fait raison. On peut plus être isolé, c'est pas possible. Et le travail ensemble, c'est travailler ensemble, déjà nous, entre professionnels, mais aussi dans la société, dans la commune dans laquelle on est. Mmh. Et ça, il faut qu'il y ait le service qui se propose. À Augan, il y a ça, et il y a d'autres communes dans le secteur où on n'a pas ça.
Mais il y a peut-être quelqu'un, excuse-moi. Non, je trouvais intéressant aussi de montrer que ce qui se passait aujourd'hui correspondait aussi à un choix politique. Au fait, vous subissez ce qu'on appelle la zonification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choix politiques qui sont faits pour concentrer tout sur les villes moyennes. Donc nous, on vient des zones dortoirs. Je dis ça parce que je pense que là, dans la responsabilité, ou du moins l'énergie que vont devoir déployer demain les élus d'Augan, entre autres, enfin je parle pour ma commune parce que je commence par ce qui me concerne directement, même si je souhaite plein de bonnes choses à ceux qui sont aussi à côté, je trouve que dans nos élus, il va y avoir cet enjeu-là. C'est-à-dire être capable de ne pas uniquement prendre les choix politiques qui viennent de schémas beaucoup plus hauts. Hein. L'organisation de la Bretagne, elle se pense au niveau maintenant régional. Et la question de la répartition de la santé, de l'accès aux services de manière générale, elle est pensée à cette échelle-là. La première résistance, c'est la résistance des élus, qui vont avoir le choix de réussir à amener les populations ou à participer à faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement une zone dortoir, hein, parce que en gros c'est un peu ça qui est amené derrière. Hein, à partir du moment où on n'a plus d'école, on n'a plus de médecins, on n'a plus de commerce, peut-être qu'il y a quelques assos qui vont survivre quelques années, mais après c'est mort. Enfin, et la question du rassemblement aussi des communes qui sont en train de se fusionner pour créer des entités plus fortes, enfin pas fortes, pas plus fortes, plus grosses, pour dire que ça peut prétendre à avoir un service qui va s'installer à un moment ou à un autre. Moi me semble des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Parce qu'on a quand même aujourd'hui, tu le disais Rémi, voilà, ça se passe bien. Il y a quelque chose, il y a une réalité économique, il y a une réalité de services de proximité. Je ne sais pas, moi j'ai envie de dire Marité, je ne sais pas si tu as envie de réagir ou pas, parce qu'il y a un enjeu sur la question de Rémi et de son départ. Excuse-moi, on se connaît, donc notre médecin c'est Rémi aussi. Quoi. Mais il y a un enjeu sur la suite, je ne sais pas si toi tu as envie de réagir là-dessus.
Si je suis là, c'est justement parce que je suis intéressée. Et c'est sûr que la question de la suite, de la succession, c'est un problème important. Mais bon, le problème, c'est de sensibiliser les élus. Et puis là, il y a aussi du travail à faire. Voilà.
En tout cas, la solution, c'est certainement pas de construire une maison en disant on va mettre une pancarte maison de santé et après on va chercher du monde. Ça, c'est un scandale financier. Et moi, en tant que citoyen, je suis extrêmement choqué de voir que mes impôts locaux ils partent dans des trucs comme ça. Ça, c'est le nombre de maisons de santé vides en France, c'était montré dans le documentaire qu'on aurait dû voir, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Et ça, c'est nos impôts qui les ont payés. Hein.
Oui, bien sûr. Mais le rayon d'action pour une maison de santé, comme vous la concevez, vous voyez ça maximum combien de kilomètres? Parce que c'est ça aussi.
Je pense que une quinzaine de kilomètres, c'est tout à fait logique. 15-20.
Ouais. Parce que la distance, ben, le rapport au temps aussi. Hein. Un malade, bon, plus il passe du temps sur la route aussi.
Malade, aujourd'hui, quand pareil, il va chez un médecin... Oui, ben, ça vous est peut-être déjà arrivé d'attendre une fois chez votre médecin. C'est pas fréquent, hein, mais non, je sais que ça peut arriver. Bon. Donc, il y a dans le temps, entre le départ de chez vous et le moment où le médecin commence à vous examiner, il se passe un certain temps. C'est ce temps-là qu'il faut voir. On peut le réduire de différentes façons. On peut le réduire par les temps, par la distance, mais on peut aussi le réduire par le temps d'attente dans la salle d'attente. D'accord ? Et ça dépend de l'organisation. Est-ce qu'il y a un secrétariat qui prend des appels et des rendez-vous ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Un médecin tout seul n'a pas les moyens financiers aujourd'hui de se payer un secrétariat. C'est pas possible. On continue à faire des visites, on continue à aller chez les gens. Mais c'est évident que nous, ce qu'on avait proposé à l'OIA, c'était d'avoir un lieu dédié où nous, on venait pour voir les gens. Sur rendez-vous, voilà. C'est bien sûr que c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. Mais le temps où moi j'aurais été à l'OIA, j'aurais pas été à Pleurmel. Je peux pas être à deux endroits en même temps, quoi.
Je voulais juste intervenir une deuxième fois en fait sur la population vieillissante en milieu rural. Donc je comprends pas pourquoi les médecins viendraient pas en milieu rural en fait, puisque il va y avoir du travail, puisque la population est très vieillissante.
Il y en a partout du travail, il y en a partout.
Oui, mais en milieu rural, les gens peuvent moins se déplacer, et donc normalement un médecin pourrait fidéliser sa clientèle et avoir.
Non, mais la question, oui, mais là vous trompez de cible. C'est plus ça le problème.
Eh ben c'est cible s'il y avait un médecin pour la population, entre autres pour la population âgée, ça engorgerait déjà moins les urgences et ça pourrait remédier à quand même pas mal de problèmes au niveau des urgences Pleurmel, Vannes.
Je suis d'accord qu'un médecin aurait du travail dans ces zones-là. Le problème, c'est qu'il en a ailleurs aussi. C'est qu'il en a partout du travail.
Oui, mais il pourrait venir gagner correctement sa vie, je voulais dire.
Il gagne correctement sa vie partout.
Ah oui, là, oui.
C'est ça le problème. Il faut que ce soit attractif. Et ça l'est pas. Et aujourd'hui, l'attractivité d'un jeune médecin, mais je pense qu'on peut dire la même chose pour les autres professionnels de santé, c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire de qualité de vie, une histoire de commodité, comme disait Rémi tout à l'heure.
Oui, et ben je pense qu'on vit mieux à la campagne qu'à la ville, à mon avis.
Mais ça, c'est votre avis. Et vous avez fait ce choix. Et moi, j'ai fait ce choix aussi. D'accord ? Mais ça, c'est un choix. Vous prêchez un convaincu. Hein. Mon objectif, c'est d'être ni en ville ni au bord de la mer quand je suis arrivé. D'accord ? Je venais de passer 2 ans dans les montagnes au Népal. J'avais pas envie d'être dans un gros endroit. Mais c'est pas parce que c'est mon avis que c'est l'avis de la majorité des trentenaires d'aujourd'hui. Voilà. Et il y a du travail partout. Partout. Il y a du travail. À Cesson-Sévigné, ça fait 3 ans qu'ils cherchent un médecin. À Cesson-Sévigné, ils cherchent un médecin généraliste. Et nous, on en a qui font la route pour venir à Pleurmel. Alors qu'ils pourraient travailler, à Cesson, juste à côté de chez eux.
Il y a comment dire, plus d'habitants à Pontivy qu'à Pleurmel et il y a moins de médecins. Là aussi, il en manque au moins 3 ou 4.
Mais ce qui va faire en sorte qu'un médecin s'installe quelque part, c'est la qualité de vie et de travail qu'il va avoir. Donc soit on lui propose une qualité de vie intéressante et il va, même si la qualité de travail n'est pas terrible, il va y aller. Soit on lui propose une qualité de travail intéressante et là, il fera l'effort de venir. Mais moi, je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui.
Ça change de l'économie habituelle.
Il y a une autre manière de voir les choses.
La richesse humaine.
Une recherche d'harmonie dans l'économie un peu.
Replacer les êtres humains au centre des échanges directs.
Je vois bien l'idée, mais j'ai du mal à mettre des mots là-dessus.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire.
Les rendez-vous de l'ESS.
Les rendez-vous de l'ESS.
Les rendez-vous de l'ESS.